Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Content de me retrouver parmi vous. Et je crois que je m'attache de plus en plus. Hein. C'est vrai. Hein. Avec la famille, on attendait impatiemment ce jour, hein, vous revoir, revoir tout le monde. C'est terrible, hein, parce que... Vous savez, moi je suis quelqu'un, je me fais beaucoup de films. J'ai toujours peur que l'un d'entre nous, le Seigneur le retire... et qu'après on soit triste, vous voyez. Je pense à ces choses-là. Nous, les êtres humains, très souvent, on aime les gens que quand ils ne sont pas là, quand ils sont morts. Vous avez remarqué? Là, tout d'un coup, on est là. Oh, là, il est mort. Mais quand il était là, tu faisais quoi? Tu ne pensais pas lui envoyer un SMS pour lui dire « Tu vas bien aujourd'hui ?» C'est ce qu'on est, hein, c'est ce qu'on fait. On aime les gens quand ils ne sont plus là. On va maintenant aimer les gens maintenant, là, les frères et les sœurs. On va les aimer aujourd'hui. Et on va tout faire pour avoir cette force, pour leur dire, j'ai pensé à toi cette semaine. Hein? Voilà. Voilà, des petits mots, des petits... Voilà, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on est une famille. Si nous, on ne s'en rend pas compte, Dieu lui le sait. Alors, ce matin, nous allons... J'ai beaucoup aimé ce matin le moment de louange. Hein. J'ai louange particulièrement aimé ça. Ces cantiques, ensemble, on a chanté, j'ai senti des cœurs qui... Je ne sais pas si c'était moi ce matin, mais j'ai l'impression que ce matin, on avait envie de vraiment exprimer à Dieu qu'on l'aimait. Voilà. Alors, Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 24. Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 24, que je vais vous lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, l'autorité du Seigneur Jésus là, mais moi, vous vous rendez compte? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raga, ce qui veut dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu te présentes ou tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors souvent, il m'est arrivé d'entendre les frères et les sœurs dire « Je ne comprends pas. Je prie. Ça fait des semaines, ça fait des mois que je prie pour quelque chose et Dieu ne répond pas. J'ai même l'impression de ne plus même l'entendre. Je vais à l'église, je le sers, je suis complètement consacré à Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi, lorsque je prie, Dieu ne répond pas. » Alors, bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Mais dans ce texte, le Seigneur va nous appeler à nous focaliser sur quelque chose que nous prenons nous à la légère, que lui ne prend pas à la légère. J'ai entendu des prières ce matin, et c'était extraordinaire, parce que très régulièrement, quand je dois prêcher, il y a toujours, je veux dire, c'est comme une introduction des frères et sœurs dans l'Église qui commencent déjà ma prédication. Hein? Voilà. Alors, le Seigneur va attirer notre attention ce matin sur nos relations les uns les autres. Nos relations. Nous, on minimise ça. Le Seigneur, lui, prend cela très au sérieux. Le Seigneur veut que ses enfants aient des relations apaisées. De bonnes relations. Les bonnes relations les uns envers les autres. Alors ce matin, nous allons nous focaliser sur ça. Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et que s'il y a un problème entre deux personnes, il faut immédiatement régler ce problème et ne pas traîner avec ça. Alors frères et sœurs, ce matin, nous devons absolument avoir des relations apaisées. Décider d'avoir des relations apaisées les uns avec les autres. D'ailleurs, pas seulement entre nous, hein, même avec le voisin. Parce que même ça, Dieu en tient compte. Avoir des relations apaisées. Des relations apaisées, c'est quoi? C'est des relations attendries. Des gens qui s'aiment. Vous savez ça? C'est la puissance contre Satan. Satan ne supporte pas les chrétiens qui s'aiment. Il n'aime pas ça du tout. Parce que des chrétiens qui s'aiment, c'est une puissance qu'on ne peut pas arrêter. Parce que là, véritablement, et je crois que le frère Alain a parlé ce matin, là, véritablement, on devient des témoins. Du témoin de Jésus-Christ. Ce verset nous montre, ce texte nous montre, qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'aller devant Dieu comme ça. Il faut faire très attention à ça. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu comme on le décide. Et si c'est une habitude, le Seigneur nous appelle à arrêter cela. Ce matin, le Seigneur va nous dire, nous expliquer pourquoi il ne veut pas qu'il y ait des relations tendues entre des frères. Alors je dis cela, j'en sais rien, ce qui se passe ici. Ce texte, je l'ai précisé déjà à l'église de Paris, vous voyez. Mais c'est la parole de Dieu. Elle s'adresse à nous tous. Et que si ce n'est pas le cas encore, s'il n'y a pas de problème, tant mieux, gloire à Dieu. En tout cas, elle nous prévient qu'il ne faut pas en avoir des problèmes, une relation compliquée les uns envers les autres, les uns avec les autres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors Dieu considère que la réconciliation, parce que c'est ce dont il est question ici, la réconciliation entre les frères est une urgence spirituelle. C'est quelque chose qui a des conséquences. Quand on a des problèmes les uns avec les autres, ça a des conséquences. Nous allons voir, j'ai trouvé trois raisons pour lesquelles il est important que le chrétien se réconcilie lorsqu'il est en conflit avec un autre. Trois raisons. La première raison, et vous allez trouver ça très évident, la première raison, c'est parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint et qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu comme cela. Notre Dieu est la perfection même. C'est tellement vrai qu'on a du mal à trouver des mots pour décrire sa sainteté. On ne sait même pas comment le faire. Ça veut dire que les mots que nous utilisons pour décrire la sainteté de Dieu sont des mots qui sont faibles. Parce que la pureté de Dieu est quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Dieu est au-dessus de tout. Le psaume 40, verset 5 dit « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Ensuite, il est dit « Nul n'est comparable à toi. » Nul n'est comparable à toi. Depuis ce matin, c'est ce que j'entends. La sainteté de Dieu imprègne tout son être. Il faut vraiment qu'on se rende compte à quel point Dieu est saint. Je pense qu'on se rend toujours compte. C'est un petit peu comme la conscience de Dieu. Est-ce qu'on réalise que lorsque on dit des mots méchants à quelqu'un, est-ce qu'on réalise que Dieu est juste à côté? Je pense qu'on ne le réalise pas toujours. Sinon, on n'oserait pas le faire. Est-ce qu'on est conscient que le Seigneur est là parmi nous? L'amour de Dieu est un amour saint. La miséricorde de Dieu est une miséricorde sainte. Même sa colère est sainte. Alors, imaginons à quel point il est saint. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. 2 à 3 dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. » Par lui sont pesées toutes les actions. C'est donc parce qu'il est saint et qu'il juge toutes les actions des hommes et des êtres humains qu'il va dire à celui qui vient avec son offrande « Va d'abord régler ton problème avec ton frère. » Il lui dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Alors, moi, j'essaie de visualiser cela. Je pense qu'on fait tous la même chose. On lit les textes bibliques, on a une image de ce qui se passe. Le croyant arrive avec son offrande. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous sommes tous arrivés avec notre offrande. C'est notre culte. Nos louanges, dont on a parlé ce matin. Donc, ce croyant-là, il entre dans le temple avec son offrande. Il se dirige vers l'autel pour offrir son don à Dieu. Et là, le verset lui dit littéralement, il te souvient que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui a porté son offrande qui s'est dit, tiens, je vais faire l'effort de réfléchir pour voir. Non, il te souvient, ça veut dire que quelqu'un, quelque chose de l'extérieur est arrivé vers lui pour lui dire, à se souvenir qu'il y a un problème. En fait, si Dieu lui dit, il y a un problème. Et pourtant, beaucoup d'entre nous viennent à l'église comme cela pour présenter leur offrande à Dieu, leur culte à Dieu, et ils traînent derrière eux des horreurs. Et en plus, on vient, on lève les mains, on chante, et puis on est persuadé d'avoir fait quelque chose. On n'a rien fait du tout, hein. Et même, je me demande jusqu'à quel point c'est pas un blasphème. C'est ce que ne fait pas les textes bibliques, d'ailleurs. On arrive, on chante, et toute la semaine, on a été des très mauvais témoins pour le Seigneur. On n'est pas ici pour s'impressionner les uns des autres, les frères. Ce n'est pas l'objectif. Quand nous venons, Dieu lui regarde une seule chose. Notre cœur. Alors, je pense à celui qui est allé apporter cette offrande, hein, n'est-ce pas, à Dieu. Et si Dieu lui a rappelé cela, moi je sais pourquoi, parce que je connais l'être humain, je le connais aussi. On se connaît, comme on dit, hein, on se connaît, hein. Eh bien, c'est certainement quelqu'un qui a minimisé pendant longtemps ce problème-là et qui n'a pas voulu le régler. Il est en conflit avec quelqu'un et il traîne avec ça. Jacques chapitre 4, verset 17 dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, c'est celui-là qui commet un péché. Alors bien sûr, on ne parle pas de celui qui ne sait pas ou qui a oublié l'affaire, voyez-vous. Mais en général, on s'en souvient. Vous savez, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, je ne suis pas très doué pour monter les meubles. Et parfois on monte un meuble, on pense qu'on a très bien fait la chose, et à un moment donné on se rend compte que y a quelque chose qui coince. Je dis, oh là là, je ne vais pas remonter le meuble. Alors, on laisse tomber une journée, une semaine, un mois, un an. Mais à chaque fois qu'on retourne dans la pièce où se trouve le meuble, le souvenir du problème est là. Donc je dis, ça, c'est ce qui m'arrive actuellement. J'ai un meuble qui est là, je ne sais pas quoi faire. Comment ? Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, mon péché, parfois, qu'on met de côté, mais qui revient tout le temps, qui revient. Il faut régler le problème, les frères. En tout cas, tant que ce n'est pas réglé, le Seigneur ne vous entend pas. Hein? Il n'entend pas ce que vous dites. C'est terrible, hein? Alors, il vient avec son offrande et Dieu lui dit, je ne peux pas accepter cette offrande parce que je suis saint. Je ne peux pas accepter ce cadeau parce que c'est un cadeau. Parce que ce cadeau est entaché de péché. Je ne peux pas accepter ce don, car l'un de mes enfants se plaint de toi. Et ça peut aller même plus loin que ça. L'une de mes créatures, le voisin là qu'on n'aime pas, il se plaint de toi. Non, parce que parfois on s'imagine que comme ce sont des inconvertis. Dieu, ça, entre nous chrétiens, ça va, mais les autres. Il ne fait pas de favoritisme, le Seigneur, il aime tout le monde. On ne peut pas se permettre de faire du mal à quelqu'un sous prétexte que ça ne marche pas avec lui. C'est pour cela que je crois que la Bible est la vérité. C'est l'une des raisons. Moi, c'est des choses qui m'ont marqué quand je rencontre le Seigneur. Il est véritablement saint, il est pur. On ne triche pas avec lui. Alors, bien sûr que Dieu aime celui qui est venu apporter son offrande, mais il aime aussi celui qui a été affecté, qui a été attristé par celui qui a apporté son offrande. Lorsqu'on se rencontre entre frères et sœurs, c'est l'amour, on s'aime, on est censé s'aimer, mais s'il n'y a pas de sainteté, s'il n'y a pas de pureté, ce n'est pas une communion. Il y a un frère qui m'a rappelé il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, on est, c'est comme une bande de potes qui se rencontrent comme ça. On n'est pas des potes. On est des frères et sœurs en Christ. Ça veut dire beaucoup pour eux. Frères et sœurs en Christ, ça veut dire je te respecte. Tu as la valeur du sang de Christ. Je fais attention à toi. C'est ça que Dieu veut. On est une famille, une véritable famille. C'est pour cela que ce matin, le frère a demandé à ce qu'on prie pour ceux qui sont persécutés, parce qu'on ne les connaît pas, mais on est affecté par ce qui leur arrive. Ce sont nos frères et nos sœurs. Un jour, on se retrouve là, on se voit face à face. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais comme moi, parfois, j'ai envie de voir Paul et lui poser certaines questions. Parce qu'une fois, moi, ça me fait un peu rire, Paul, hein, le frère Paul, parce que j'ai l'impression de le connaître hein, au travers des Écritures. Hein. Quand il parle des églises qui causent tant de problèmes, vous voyez, j'essaie d'imaginer Paul qui n'en peut plus, quoi. Voilà. Ces églises, c'est pas possible. Mais il aime ses frères et sœurs. Hein. Il est affecté parce qu'il veut les voir marcher avec le Seigneur. Une communion où il n'y a pas de sainteté, ce n'est pas une communion. C'est peut-être un club, une association, mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu lui dit, laisse là ton offrande. Je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas avoir une communion avec toi tant que tu es dans cette situation. Va régler ton problème d'abord. J'aime bien cette image de laisse là ton offrande. Alors, je me suis demandé quel type de reproche, quel type de situation peut se retrouver dans le cas de cet homme qui est allé offrir son offrande et qui ne pouvait pas continuer son adoration. Peut-être qu'il a insulté cette personne. Vous savez, parfois, on est tellement doué pour faire le mal qu'on peut insulter même sans insulter. On est fort, hein, pour faire le mal. Hein. On dit une phrase qui paraît anodine comme ça, mais c'est une insulte en réalité. Et là, Matthieu, chapitre 5, verset 22, le verset 22, hein, dit, « Mais moi, et ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, on voit l'autorité du Seigneur Jésus qui dit, « Mais moi, je vous dis. » Vous vous rendez compte? C'est énorme. Hein. « Je vous dis que quiconque se met en colère, seulement en colère, on pourrait s'imaginer que la colère, non, qui se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raca, imbécile, insensé, lui aussi mérite d'être puni. » Alors peut-être que cet homme lui est reproché aussi, comme on sait le faire aussi souvent, de pardonner quelqu'un. Vous savez, c'est aussi une façon de faire du mal à quelqu'un, c'est de refuser de pardonner. On sait faire ça. Hein. Parce qu'on espère que l'autre va souffrir. Surtout si on sait que c'est une personne qui nous aime. Je vais traîner un peu. Si je pardonne tout de suite, je vais attendre un jour. Alors, je vais attendre une semaine, comme ça va bien souffrir. Je vais attendre un mois. Et là, le Seigneur le regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Il ne pardonne pas. Est-ce qu'il a bien compris le salut? C'est grave, hein? Quand on ne pardonne pas, c'est qu'on n'a pas compris le salut. Parce que le salut, c'est que Dieu nous a pardonné, nous. C'est qu'on estime que peut-être que nous, on est peut-être meilleur que l'autre, les autres, donc Dieu doit nous pardonner. Pour Dieu, pour le Seigneur, c'est grave. Mari et femme, est-ce que vous pardonnez assez rapidement? Ne pas laisser cette colère, hein, laisser le soleil se coucher sur notre colère. Dieu vous attend, là. Hein, il voit les mari et femmes qui reviennent. Non, je sais, hein. On doit se pardonner, ne traînez pas, ne laissez pas la nuit passer sur quelque chose qui n'a pas été réglé. Faites pas ça. Satan n'attend que ça pour s'infiltrer. Et quand lui s'infiltre, il fait des dégâts. Hein. Mais il fait des dégâts parce qu'on lui laisse la porte ouverte. Il faut pardonner. Marc chapitre 11, versets 25 à 26, dit, Marc 11, 25 à 26, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est grave, hein, cette situation. C'est une situation grave. Peut-être qu'on se moque des gens, peut-être. On s'est moqué de quelqu'un. Si on s'est moqué de quelqu'un, on ne peut pas aller dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on doit faire attention à tout ce qu'on dit. Nos mots, ce qu'on dit, notre comportement, notre attitude. Toutes ces choses, le Seigneur les regarde. Et les enfants aussi les regardent. Faire des offrandes à Dieu, c'est lui présenter volontairement ce que nous sommes et ce que nous avons comme acte d'adoration. Donc, quand on va adorer Dieu, on ne peut pas avoir des problèmes que nous traînons. On ne peut pas être dans sa présence comme cela. Alors, donc, Dieu dit à ce croyant, à cette croyante, comment peux-tu donc dire que tu m'aimes quand tu n'aimes pas ton frère ? C'est un verset biblique, ça. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que je crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu. Parce que cette pureté, cette sincérité, il n'y a que dans la Bible on voit cela. On ne triche pas avec Dieu. Dieu n'est pas dans un endroit pour qu'on ait l'adoré, il est partout. Donc on l'adore en esprit. On ne peut pas donc se servir d'artifice ou je ne sais pas, d'apparence, d'autre apparence pour pouvoir l'impressionner ou pour faire croire aux gens qu'on adore Dieu. C'est dans la sincérité. On ne triche pas avec Dieu. C'est vraiment notre sauveur personnel. Moi j'aime bien, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai venu à Christ, j'étais jeune chrétien. Hein. Pourquoi ils insistaient sur le personnel et au fur et à mesure je comprenais. C'est mon Dieu à moi. En parenthèse. Parfois on est fâché dans l'église et puis on quitte l'église. Mais quand on quitte l'église, à qui vous faites du mal? Mais c'est au Seigneur. Hein. Parce que le jour où vous êtes venu à Christ, vous êtes venu seul à Christ. C'était quelque chose entre vous et Dieu. C'était pas vous avec les autres. C'était juste vous, moi seul, avec le Seigneur. Donc quand je vis pour le Seigneur, ma vie pour le Seigneur. Il me confie quelque chose, je le fais pour lui. Je ne fais pas les choses parce que les autres. Quelle erreur! Et donc, pour revenir à notre texte, quand nous allons adorer Dieu, c'est entre lui et nous. Mais je ne laisserai pas quelqu'un d'autre ternir cette relation que j'ai avec lui. S'il y a quelque chose à régler avec un frère, il faut le faire immédiatement pour que je continue à garder cette relation pure avec le Seigneur. Entre lui et moi, c'est mon adoration envers lui. C'est lui que je respecte. Vivre dans la désobéissance, parce que c'est le cas, si on ne le fait pas, c'est vivre dans la désobéissance. Et ça, la Bible dit que ça met une barrière entre nous et le Seigneur. C'est un point très important, parce que si on ne tient pas compte de ça, on vient à l'église, on fait tous ses efforts, le matin on est dans les embouteillages, on vient ici pour rien, parce qu'on n'a pas réglé le problème avec ce frère-là, ou avec cette sœur avec qui on doit régler ce problème. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Lorsque j'étais à l'Institut biblique, j'avais une vingtaine d'années, un jour, le pasteur de mon enfance me passe un coup de fil et me dit « Jean-Louis, est-ce que je peux manger avec toi ?» Alors, je dis ça parce que j'ai quitté je viens de Metz, hein, donc j'avais quitté ma région depuis longtemps, et ça faisait très longtemps qu'on ne se voyait pas. Il venait de temps en temps à l'Institut parce qu'il enseignait à l'Institut, le pasteur, hein, voilà, qui est parti auprès du Seigneur maintenant. Il me dit, il faut que je te voie. Donc il m'invite à manger. On a été manger. Voilà. Et puis à un moment donné, il me dit, et ça m'a marqué. Hein. Il m'a dit, j'avais 20 ans. Et lui, il avait 51 années. Il me dit, je vais te dire quelque chose, Jean-Louis. Je dis oui. Il me dit, je vais te demander pardon. Alors moi, j'étais très impressionné parce que, pardon, déjà, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé formidable, moi je ne sais pas ce qui a pu se passer pour qu'il me demande pardon, vous voyez. Mais je vous parle une dizaine d'années plus tard. Il me dit, je te demande pardon. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et là, il me rappelle un fait, quelque chose qui s'est passé dans mon adolescence. Et il éprouvait le besoin de me demander pardon. Alors bien sûr, j'ai pardonné. Mais j'étais très surpris de ça. Mais j'étais très surpris, enfin, très touché, parce que pour moi, c'est l'humilité même. Qu'un homme de cet âge vient voir un gamin, qu'il forme en plus, qu'il a un acquis, lui demander pardon, ça a changé beaucoup dans ma tête, moi, ça m'a beaucoup apporté. Mais on va en reparler. Parce qu'on a un gros problème, hein, c'est l'orgueil. Je vais revenir sur ça. Donc, la première raison, c'est parce que Dieu est saint. Deuxième raison pour laquelle il est important d'avoir des relations apaisées entre nous, hein, et que s'il y a un problème, de se réconcilier avec ce frère ou cette sœur. La deuxième raison, parce que notre Dieu est un Dieu de paix. C'est un Dieu paisible. Alors, juste en parenthèse, parce que j'ai entendu durant la semaine, ne cherchons pas les problèmes. Dieu aime que ses enfants vivent dans la paix, dans le voisinage, qu'on soit en paix. N'allons pas chercher des problèmes, forcer l'évangélisation pour montrer qu'on est des chrétiens. Et puis se mettre dans un problème ou dans des situations où on est à un moment donné, se retourne dans des situations de bagarre, je ne sais pas trop quoi. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il veut qu'on puisse vivre dans la sérénité et la paix. Voilà. Donc, on annonce l'évangile. Si Dieu ouvre les portes, on annonce l'évangile. Si on peut insister un petit peu parce qu'il y a une possibilité, pourquoi pas. Mais on ne force pas les gens, on ne cherche pas de problème. On est des gens paisibles. Que les gens puissent nous dire, ah oui, c'est quelqu'un de tranquille. C'est quelqu'un de bien, il ne cherche pas dans lui. C'est un témoignage déjà ça. Mais notre Dieu est un Dieu de paix. Et nous sommes dans la période de Noël. Mais Noël, c'est ça. Noël, c'est Dieu qui vient faire la paix avec les êtres humains. C'est ça Noël. Et donc on se sert de Noël, hein, cette célébration, pour nous rappeler qui est notre Dieu. C'est un Dieu paisible. Jésus-Christ, le prince de la paix. Je l'ai rappelé ce matin. Il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu. L'Éternel demeure en paix. Il ne s'agite pas. Ce n'est pas un Dieu agité. Il n'est pas agressif, notre Dieu. Dieu n'est pas brutal. Il est calme. Il est tranquille. Il est doux. Le verset 9 de Matthieu chapitre 5 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous sommes censés ressembler à notre Père. Vous vous rappelez de ce trait de caractère ? On doit lui ressembler. On doit générer la paix. Quand on arrive quelque part, les gens doivent sentir la paix. Et non pas la fuite, parce que, oh là là, il arrive. La paix. Même parce qu'il y a des gens qui font peur. Moi, parfois des frères ou des sœurs me font peur. Parce que je sais, quand ils sont là, c'est la pagaille. On doit générer la paix. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, vraiment, il faut penser à ça. Vous savez, parfois, on vit des choses pour comprendre Dieu. C'était le cas pour Michel, d'ailleurs. Nous avons des enfants pauvres, la plupart d'entre nous. Combien d'entre nous aiment voir leurs enfants en train de se battre? Avant d'être marié, ça faisait partie de mes cauchemars. Vraiment, je pensais souvent à ça. Et je priais le Seigneur que ça n'arrive jamais. Et le Seigneur m'a donné des enfants qui s'aimaient. Et qui continuent à s'entraider. Ils sont grands, là, mais ils sont tout le temps fourrés ensemble. Bon. Ils sont toujours en train de s'entraider. Et je dis, Seigneur, mais merci pour ce que tu fais. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, mais Jean-Louis, si je te montre ça, c'est pour te dire que moi aussi, je veux que, dans l'Église, vous soyez en paix les uns envers les autres. Parce que quand ce n'est pas le cas, je suis triste. Est-ce qu'on arrive à imaginer que Dieu est triste quand ses enfants ne vivent pas en paix les uns envers les autres? Ça ne sert à rien d'aller voir Dieu pour dire « Moi, je sais que Dieu me préfère. » Ça ne sert à rien de faire ça. Il aime tous ses enfants, même les plus durs. Parce que lui, c'est un père. Hein. Le papa, il aime tous ses enfants. Hein. Et s'il n'y a pas de paix, c'est parce qu'il y a conflit. Et quand il y a conflit, alors le Seigneur dit, laisse-la ton offrande devant l'autel et j'aime bien. Va d'abord. C'est beau ça. Ça veut dire que l'offrande, il la veut. Dieu veut l'offrande, l'adoration. Il faut adorer Dieu. Ce n'est pas le problème. Mais toi, est-ce que tu es réellement en état de m'adorer? C'est ça toutes les questions. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, souvent je dis, beaucoup sont partis se réconcilier, ils ne sont pas revenus. Est-ce qu'on est dans ce cas-là ce matin, frères et sœurs? Est-ce que Dieu vous a dit, va régler ton problème, ton frère, et reviens? On s'en va, mais on ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se réconcilier, hein? On ne le fait pas, hein? Parce qu'il nous énerve, ce frère-là, il m'énerve. Alors on peut rester comme ça pendant des années. C'est une horreur. Et là, le Seigneur attend. Il attend votre retour. Il attend notre retour. Mais surtout, frères et sœurs, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Okay. Le verset 18, il est dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est comme si le Seigneur dit, moi je me suis réconcilié avec toi, alors que toi tu refuses de te réconcilier avec ton frère. Pourtant vous êtes tous les deux des pécheurs. Moi je suis saint, je me réconcilie avec toi qui es un pécheur, mais toi qui es un pécheur, tu as du mal à te réconcilier avec un autre pécheur. Pour qui tu te prends? Ou alors tu es en train de dire que moi c'est pas important ce que j'ai fait. Verset 18. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, il est dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Bon, j'espère que pendant que vous entendez tout cela, vous avez fait comme moi, quand je préparais cette prédication, ça travaillait, hein. Oh là 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 là, avec qui ça ne va pas? Oh là là. Et par contre, on dit, bon, lui, je veux réconcilier avec lui. Mais l'autre là, non, le Seigneur, lui, c'est trop, là, c'est pas possible. Oh là là, non, le Seigneur, lui, il est. C'est ce qu'on fait, hein. Le ministère de la réconciliation. Dieu dit aux chrétiens, mais tu es réconcilié avec ton frère, c'est la moindre des choses. Puisque tu es censé appeler les autres êtres humains à moi, ton travail, c'est de réconcilier. Notre ministère, c'est la réconciliation, frères et sœurs. On doit aller chercher les autres créatures de Dieu pour les ramener à Dieu pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Donc c'est notre travail, c'est notre ministère de réconcilier. Comment se fait-il que celui qui est appelé à réconcilier n'arrive pas à se réconcilier lui-même avec quelqu'un? Es-tu sûr d'avoir compris l'évangile? Je ne sais pas si on voit la portée de ça. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu as bien compris l'évangile? Ça veut dire, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que c'est normal qu'il reste aussi longtemps sans te réconcilier avec ton frère? Et ça ne te fait rien. Alors j'aime bien comment c'était exprimé dans le texte grec, hein, se réconcilier avec son frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Littéralement, ça veut dire va d'abord changer l'esprit de ton frère à ton égard. Va d'abord changer l'esprit de ton frère à ton égard, te concernant. Et si tu ne changes pas l'esprit de ton frère à ton égard, il y a un problème. Mais ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aller voir la personne pour lui dire, bon voilà, Dieu m'a dit de le faire, je vais le faire. On doit tout faire pour que ça se passe bien. Parce qu'il s'agit de changer sa pensée, son esprit, à mon égard. Il doit penser autrement de moi. Ça sous-entend un effort de ma part. C'est pas, comme Dieu me l'a dit, bon, oui, bonjour, ça va, oui, bon, écoute, on se réconcilie, bon, voilà, tu ne suis plus fâché, tu n'es plus fâché, bon, passe une bonne journée. Oh, la personne devant la porte, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est vraiment une œuvre, c'est un ministère, c'est de montrer au frère que vraiment tout va bien maintenant. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? D'ailleurs, je reconnais que je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Mais ça, c'est une grâce extraordinaire. Il n'y a que quelqu'un qui marche avec Dieu qui peut faire ça. C'est aussi ça que ça veut dire. Quelqu'un qui a du mal à se réconcilier, bêtement, ça implique beaucoup de choses négatives. Hein. Il faut vraiment régler le problème avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit. On ne doit avoir personne dans notre vie. Tant que cela dépend de nous. Hein. Tant que cela dépend de nous. C'est-à-dire qu'on va faire l'effort, on va aller voir la personne, la sœur, le frère, tout faire pour que ça s'arrange. Et si le frère ne veut pas, ou la sœur ne veut pas, vous avez rempli votre devoir. Là, vous pouvez revenir, donner votre offrande au Seigneur. Parce que réellement, vous avez tout fait pour vous réconcilier. Maintenant, la responsabilité incombe à l'autre. Mais on ne va pas passer sa vie à demander pardon à la personne, tout fait pour régler, et puis on reste. Non, Dieu est très juste. Hein. Et si on a été honnête, si on avait été sincère, il le saura. Tant qu'il n'y a pas réconciliation, tant que nous n'avons pas changé l'esprit de celui qui nous en veut, que nous avons offensé, notre Père Céleste ne nous écoute pas quand on prie. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Alors on peut être forcé, hein, on peut venir, Seigneur, bon voilà, on fait comme si ça n'a jamais existé, mais le Seigneur n'entend pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont restés des années à prier et Dieu n'écoute pas. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent aller régler. Ne pensons pas que parce qu'on va rester 40 ans ou 60 ans que Dieu va oublier. Hein. Son nom, c'est l'Éternel. Et la notion de temps, ça n'existe pas chez lui. Il n'y a pas de temps. Donc, il faut vite régler ça. Ça ne sert à rien de dire qu'il va oublier. Il ne peut pas oublier. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas aller prier comme cela. On prie et puis tout va bien. Non. On ne peut pas avoir un problème avec quelqu'un et puis c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Donc, ne soyons pas surpris que nous prions et que Dieu n'entend pas. Dieu n'exauce pas. C'est ça dont il est question. Et lui veut exaucer. Troisième raison, et je vais terminer avec la troisième raison. Vous avez remarqué souvent ces trois raisons, hein, c'est souvent trois points. Hein. Bon, parce que je crois que j'en ai déjà parlé, je crois. Il me semble que j'en ai parlé. Pourquoi c'est souvent trois points? Parce que c'est ce qu'on retient plus facilement, c'est équilibré. Voilà. Mais il y aura des prédications avec 4-5 points. Je vous le dis, hein, je ne veux pas être malhonnête. J'ai besoin d'autres points parfois, beaucoup plus. Troisième point. Troisième raison pour avoir, pour laquelle nous devons avoir une bonne relation les uns avec les autres, des relations apaisées. C'est parce que, frères et sœurs, et ce troisième point, c'est la logique. C'est parce que Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. Deutéronome chapitre 23, versets 21 à 23, dit « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche pourra prononcer. Notre Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Si tu fais un vœu à l'Éternel, tu vas l'accomplir. Lorsque nous adorons Dieu, c'est un vœu que nous sommes en train d'accomplir. Voilà pourquoi Dieu l'a dit, tu laisses là ton offrande. Vous voyez comment il est cohérent. Si ça avait été, vous savez, un Dieu fabriqué par les êtres humains, il allait donner un coup de pied à la fille qui vient nous faire son offrande. Hein. Lui et son offrande, là, vous dégagez. Ça, c'est un Dieu humain. Mais notre Dieu, il dit, et là, je sens beaucoup de douceur, parce que souvent, quand on dit les choses, on le dit un petit peu avec le ton humain. Moi, je sens beaucoup de douceur. Ce que tu fais, c'est formidable, ton offrande, c'est magnifique. Hein, c'est bien ce que tu fais, mais je ne peux pas accepter. Tu sais comment je vais l'accepter? Eh bien, tu vas retourner voir Georges. Alors, je ne sais pas s'il y a des Georges à cette époque-là et chez les Juifs. Hein. Tu vas le voir et tu vas te réconcilier avec Georges. Et comme cela, le cœur de Georges sera apaisé et moi aussi, mon cœur sera apaisé. Et là, tu pourras revenir faire ton offrande. Mais l'offrande, tu ne repars pas avec. Tu le laisses là. Vous voyez la cohérence? Parce qu'il a dit dans l'Ancien Testament que si tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Cet homme est venu accomplir cela. Il ne va pas tout d'un coup le chasser avec son offrande. Vous voyez? C'est très cohérent. Vous voyez? Donc tu pars et tu reviens accomplir ton vœu. parce que c'est ce qu'il dit au verset 24, hein, puis viens présenter ton offrande. Et je me demande si ce n'est pas la partie la plus importante de ce texte d'ailleurs. Je me le demande. C'est-à-dire aller faire cette offrande volontairement, de manière volontaire. Et que cette chose importante, l'adoration, c'est retrouver devant un obstacle. Cet obstacle, c'est que ce frère avait une relation non apaisée avec un autre. Verset 20 dit, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La justice des pharisiens et des scribes était une justice hypocrite. Celui qui vient présenter son offrande à Dieu sans avoir réglé le problème avec son frère est hypocrite. Et Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Parce que lui, il voit le cœur. Nous, on aurait été impressionnés si on avait été là. On allait voir cette main arrivée avec son offrande, on allait dire, ah, waouh! Et vous voyez, et Dieu dit, tu retournes. Parce que lui, il regarde le cœur. Dans quel état est notre cœur ce matin, frères et sœurs? Est-ce qu'on se rend compte que Dieu voit notre cœur, l'état de notre cœur? En parenthèse. Parfois, je me dis, mais vous savez, souvent, on parle souvent des disciples de Jésus qui n'étaient pas toujours au point, on va dire. Mais imaginez un instant que vous êtes avec le Seigneur Jésus. Vous êtes avec quelqu'un qui voit dans vos pensées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes avec quelqu'un qui voit ce que vous pensez. Il sait exactement ce que vous avez dans le cœur. Et je me dis, peut-être que c'est ce qui a protégé un petit peu les disciples, parce que moi, j'aurais fui, hein. Pas qu'il voit dans mon cœur hein, ce qui se passe, parfois, pas tout le temps. Ou alors, le regard, je sais pas ce que le regard. Et là, le Seigneur me dit, mais ça sert à rien, je vois tout. Hein. Hein? Le Seigneur voit tout, Dieu voit tout. Les pharisiens étaient hypocrites. Et c'est pour ça qu'ils avaient des problèmes avec le Seigneur Jésus. Et donc, cet homme allait devant faire son offrande avec ce problème, et Dieu a dit, il n'y a pas de communion. Il y a un problème. L'image que tu me donnes, ou tu donnes en apparence, ne correspond pas à ce que tu veux faire. Alors, je me suis posé la question, combien d'entre nous ont abandonné leur vœu à l'Éternel? Est-ce que nous avons fait un vœu à l'Éternel et puis quelque chose a fait que et on a abandonné notre vœu. Alors, parfois, c'est justifié. Hein. Mais parfois, on abandonne parce qu'on a préféré la facilité. La facilité, ici, c'est de ne pas aller se réconcilier avec le frère, avec la sœur, parce qu'on ne supporte pas la personne. Est-ce que nous sommes partis régler le problème et rester là-bas? On n'est plus jamais revenu pour continuer notre vie. Et le gros problème de l'être humain, c'est l'orgueil. L'orgueil nous fait tellement de mal. C'est une horreur. L'orgueil a séparé des couples. L'orgueil a séparé père et fils, mère et fille. L'orgueil a séparé les églises. Alors qu'il suffit simplement de dire... Juste ça, pardon. Mais l'orgueil nous bloque dans tout ce qu'on fait. J'ai vu des gens qui étaient censés devenir pasteurs, ne plus pouvaient être pasteurs à cause de l'orgueil. Parce qu'il y avait quelque chose à régler qu'ils n'ont pas voulu régler. L'orgueil fait du mal au monde. Regardez les guerres, regardez derrière les guerres ce qu'il y a. C'est l'orgueil. Hein. Beaucoup sont restés dans cet état et ils disent en plus, Dieu me comprendra. Ça, c'est l'orgueil de dire ça, Dieu me comprendra. Est-ce que ce que tu fais correspond aux instructions du Seigneur ou pas? Si ce n'est pas le cas, Dieu ne peut pas comprendre. Dieu ne te comprend pas. Vous, les femmes mariées, les sœurs mariées, là, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre foyer qui vous énerve et puis votre mari... Vous voulez depuis, et... parce qu'il ne change pas et vous êtes devenue amère. Et depuis, vous n'êtes plus soumise à votre mari. Ça veut dire qu'on va désobéir à Dieu parce que mon mari se comporte mal. Il faut régler ce problème. Est-ce que les maris, est-ce que vous avez arrêté de chérir votre femme parce que, quelque raison que ce soit, il y a un problème qui n'a pas été réglé et depuis, il y a ce problème. Vous êtes devenu dur. On a du mal, hein, du mal à la chérir. Et là, le Seigneur regarde toutes ces choses-là. Mais vous ne pouvez pas venir adorer le Seigneur dans cet état. Les frères, c'est ce que le texte nous dit. Hein. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des parents ici qui ont des problèmes avec leurs enfants? Et puis, les enfants n'ont pas toujours tort. Hein. Parce que la Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Est-ce que nous irritons nos enfants? Vous voyez comment Dieu pense de tout le monde? Il n'y a que le Créateur pour parler des enfants dans la Bible, pour dire attention à ce que vous faites à vos enfants. Ne les irritez pas. En plus, à une époque où femmes et enfants, c'était les personnes auxquelles on ne faisait pas attention, hein. Mais Dieu tient aux enfants. N'irritez pas vos enfants. Éduquez-les, élevez-les. Mais ce n'est pas parce que vous les élevez, vous les donnez à manger, que vous vous permettez de faire n'importe quoi avec vos enfants. Ils appartiennent à Dieu. Hein. Quand j'ai pris conscience que mes enfants appartenaient à Dieu, ça a réglé beaucoup de choses dans ma tête. Bon, déjà, le fait de m'inquiéter, parce que je m'inquiète tout le temps pour les enfants. Donc, j'ai dit, Seigneur, mais tu les aimes plus que moi, donc. Bon, j'essaye, hein, j'ai essayé. C'est pas toujours simple. Vous voyez comment, ce que Dieu attend de nous, et vous les jeunes, est-ce que vous respectez vos parents? Ne dites pas, je vais à l'église, le plus important, c'est que j'adore Dieu. C'est une blague. C'est une blague, hein. Parce que pour Dieu, c'est très important, ça. Ne serait-ce que parce que, si vous ne respectez pas vos enfants, comment vous pouvez respecter Dieu? Que vous ne voyez pas. On revient toujours à la même chose. Hein. Dieu apporte la paix, le Seigneur apporte la paix dans le foyer. La réconciliation, elle concerne tout le monde, pas seulement les frères et les sœurs. C'est déjà là où nous vivons. Il y a mari et femme, parfois, qui vivent pendant des années en conflit. Hein. Alors, comme ça, quand on les voit, tout va bien. Mais une fois qu'ils rentrent à la maison, chacun dans son coin. Hein. Ah, ce matin, je pique. Hein. Ce matin-là, bon, je suis déchaîné, là. Hein. Là, il y avait Marie et Franck qui se disent, bah, c'est bon, arrête, on a parlé de vous, parlez de vous. Et ce n'est pas évident. Pour ceux qui ont des épouses ou des épouses qui ne sont pas sauvées, c'est difficile. Hein. C'est une galère. Hein. Alors vous, votre témoignage, c'est encore... ça doit être encore le niveau dessus. Hein. C'est très difficile. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. C'est très dur. Très, très dur. Et le Seigneur le sait. On doit donner ce témoignage. Oui, le Seigneur est parfaitement cohérent. Et comme il est cohérent, il s'attend à ce que nous aussi on soit cohérent. Cohérent parce que nous sommes ses enfants. On doit lui ressembler. On doit être logique dans ce qu'on fait. On ne peut pas dire que je suis chrétien et se comporter différemment de ce que doit être un chrétien, tout simplement. La cohérence. Dieu nous dit, sois cohérent. Ton offrande, tu ne peux pas venir ton offrande avec ce péché. Tu ne peux pas venir ton offrande sans être réconcilié avec ton frère. Parce que si tu viens avec cette offrande, il faut que tu puisses avoir une communion avec moi. Donc tu sais que c'est important d'être en communion. Tu vois l'importance de la communion. Ah ben, retourne être en communion avec ton frère. Vous voyez la logique, la cohérence? Ça, c'est la Bible. Je vais terminer. Juste pour rappeler juste quelques éléments. Il y a des conséquences à ça. Et ça, on l'oublie souvent. Il y a des conséquences à rester dans un état de désobéissance. Parce que c'est ça. Ne pas se réconcilier, c'est un état de désobéissance. La première chose, c'est que ben, on ne peut plus faire du culte à Dieu. Non, mais je ne sais pas si on peut entendre ça. Tant qu'on est en conflit non réglé, parce que quand ça dépend de nous, bien sûr, hein, on ne peut pas aller au culte. Si, vous pouvez venir, je n'ai pas vous empêcher de venir au culte. Mais le but, c'est de vous dire que notre culte n'a plus de portée. Dieu ne voit pas. Il attend qu'on soit réconcilié. Donc, l'offrande est mise en pause, on va dire. Dieu attend. Tout dépend de nous. Faisons la démarche et revenons. Deuxièmement, ben, notre culte devient incohérent et hypocrite. Parce que nous allons chanter des cantiques à l'Éternel. On va chanter des cantiques l'hypocrisie. Dieu n'accepte pas. Mais, attention, il y a aussi un autre problème, la discipline paternelle. Dieu corrige ses enfants. Je sais qu'on est dans un monde où tout le monde dit que Dieu est bon, il est gentil et tout cela. Donc on ne peut pas penser à ça. On n'aime pas penser à ça. Mais c'est une réalité, frères et sœurs. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, l'église de Corinthe, vous connaissez. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un bon nombre sont morts. Alors quand on dit ça, il faut vite apporter une rectification. Ce n'est pas parce que on est dans un état handicap ou malade ou qu'il y a des gens qui meurent que c'est forcément parce qu'ils étaient dans cet état-là de péché. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est rarement le cas parce que Dieu est bon. Voilà, le Seigneur est bon. Parce que sinon, je crois que la plupart d'entre nous, on serait venus ici. Ça n'est pas venu en fait. On serait tous venus avec une ambulance, chacun à son tour. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi ça. C'est une discipline de Dieu. Il faut tenir compte de cela. Ce n'est pas systématique parce qu'il est bon, mais attention. La Bible enseigne clairement que chez l'enfant de Dieu, le péché non confessé peut produire la maladie. Et au point même où certains hommes retirent vraiment la vie de certaines personnes. L'obéissance vaut mieux que la, le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Alors, je vais terminer ce message en faisant un petit appel. Ce n'est pas de mes habitudes. Si ce matin, le Saint-Esprit, car c'est son ministère, nous a convaincus qu'il y a dans notre vie un conflit qui n'est pas réglé, il faut agir, frères et sœurs. La prédication, ça sert à ça. C'est Dieu qui nous rappelle quelque chose et qu'il faut prendre au sérieux. S'il y a une offense, gardez. Une réconciliation refusée, c'est-à-dire, et ça aussi, quelqu'un veut se réconcilier avec vous et vous refusez. Wow. Et on vient à l'église et puis on rentre. On fait vraiment plus à Dieu. Si c'est le cas, il faut, dès que possible, régler notre situation. Le Seigneur dit, va d'abord te réconcilier et reviens me voir. Alors, si nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières, frères et sœurs, peut-être que c'est aussi ça le problème. Je dis bien peut-être. Ça peut être autre chose. Mais il faut tenir compte de cela. Notre Dieu est cohérent, mais il est saint. Et c'est un Dieu de paix. Alors, je vais te donner un verset. Colossiens chapitre 3, versets 13 à 14, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Chez Dieu, ce n'est pas un vain mot, hein. Et il y a un autre verset, allez, Matthieu 18, 19 à 20, qui est très bon aussi. Matthieu 18, 19 à 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est au ciel. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais pour que notre prière soit accordée, il faut qu'on s'accorde nous. Vous voyez l'importance de tout ça? C'est Dieu prend de ses pauvres. Dieu, c'est sérieux. Hein. Donc peut-être que si Dieu n'existe pas nos prières, peut-être que certaines choses ne vont pas. Peut-être que c'est ça. Alors, frères et sœurs, ayons donc ces relations apaisées les uns avec les autres. Des relations de tendresse. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. D'ailleurs, la prédication de la dernière fois, est-ce que vous avez commencé à encourager les frères, envoyer des messages? Non? Bon, ça, c'est ça. C'est entre vous le Seigneur. Hein. Voilà. Mais prenons cette habitude-là. Dans la semaine, pensons les uns aux autres. Hein? Voilà. Si vous savez que quelqu'un est malade, un petit message. Et c'est bien, il y a des frères qui me disent, Jean-Louis, il y a quelqu'un qui a un problème. Ah, oh, merci beaucoup. Ah, j'envoie aussi le message. Et on fait ça entre nous, voyez. Parce qu'on est une famille. Hein? C'est malheureux qu'on ne s'en rende pas compte. On pense que notre famille dans la chair est plus importante que notre famille
Christ.
Pour Dieu, c'est l'inverse. Nous sommes véritablement une famille. Hein. Soyons cette église-là qui plaît à Dieu, hein, où tout le monde s'entend, hein, où tout le monde est en paix avec l'autre. Que le Seigneur bénisse et nous aide.
Amen. Amen.